vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage geek et ludique ensemble. Pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François. Je suis accompagné de Périve.
Salut à tous.
De Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Bonsoir à toutes.
Alors, très peu de choses aujourd'hui à l'agenda, contrairement à d'habitude. Peut-être une petite série qu'on a vue sur Canal+. Alors, il y en a assez peu de bonnes séries françaises, alors c'est important de les signaler. Surtout qu'ici, on parle un peu de science-fiction et d'événements un peu surnaturels. Cette série s'appelle OVNI et elle attaque le domaine d'une manière un peu parodique.
Ouais, bah c'est vrai qu'au début, ça me fait un peu penser à X-Files, en fait, vu que... Ce qui se passe, c'est qu'un ingénieur spatial est nommé chef du GEPAN. Alors GEPAN, G-E-P-A-N, c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc forcément, tout de suite, on pense à OVNI. Et en fait, des gens appellent pour signaler des choses un peu inexpliquées. Et donc, il va avec son équipe, là, l'ingénieur, pour essayer du coup de donner des explications rationnelles et scientifiques aux événements observés. Mais bon, parfois, il y a des petites choses, on doute, et on se dit, tiens, est-ce que finalement, il n'y aurait quand même pas un peu des petits hommes verts qui se baladent? Et oui, effectivement, c'est un peu sur le style humoristique. J'ai beaucoup apprécié. Puis ça se regarde vite. C'est une douzaine d'épisodes en quoi une demi-heure chacun.
Et c'est assez rigolo, hein, effectivement. Ça se laisse regarder. Donc, disponible sur Canal+.
Alors, oui, parmi les comédiens, oui, il y a eu des comédiens connus, hein, Melville Poupeau, Michel Vuillermoz ou Géraldine Palace. Donc, j'ai entendu quelques interviews, je les ai entendus aux interviews, ils ont l'air de bien s'éclater pour la série.
Oui, en plus, l'ingénieur dont je parle, là, il se fait un peu chambrer parce que tout au début, donc il est responsable du vol d'une fusée et la fusée explose et donc, bon, forcément, du coup, il change de job et c'est pour ça qu'il prend la tête du GEPAN, donc un peu comme s'il était mis au placard au début. Et bon, du coup, oui, il y a des petits clins d'œil justement sur cette fameuse fusée qui explose. Donc.
Ce qui a l'air sympa, c'est qu'au début, il ne croit pas du tout aux ovnis. Pour lui, il est très rationnel, voilà. Mais on sent que petit à petit, il bascule dans le côté obscur. Ouais.
Et puis, il a une équipe, des perles dans son équipe. Donc.
Après, moi, j'ai bien aimé le côté reprise de tout, le côté pas forcément parodique 100%, mais le côté des années 70 de l'époque, où tu avais les costumes en tweed, la façon de s'habiller, la façon de parler, et aussi qu'à l'époque, dès que tu avais une déclaration, par exemple d'un ovni, une soucoupe volante ou n'importe quoi, c'est pas comme maintenant. Là, à l'époque, tu étais obligé de te déplacer, de faire une enquête de porte à porte, des témoignages. Ça apporte quelque chose d'humain et sûrement de comique dans la série qui est vraiment important.
Alors, le GEPAN, ça existe vraiment, hein, attention. Et il y a certaines statistiques qui ont été publiées par le CNES qui détermine un peu tous les phénomènes qui sont reportés, un peu est-ce qu'ils ont été identifiés. Alors, à savoir que 22% des phénomènes, alors ça c'est une étude qui date de 2019, 22% des phénomènes sont parfaitement identifiés. À savoir donc qu'ils ne sont pas surnaturels. Ils peuvent être par exemple soit un avion ou un feu d'artifice ou autre. Hein. 40%, alors la grande majorité, sont des phénomènes probablement identifiés.
Donc, ils sont probablement identifiés dans l'état des connaissances actuelles, parce qu'on va améliorer nos outils de détection, de repérage, etc. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer maintenant, qu'on pourra peut-être expliquer plus tard.
Voilà, ça ressemblait à un phénomène habituel, mais qu'ils n'ont pas pu vérifier pour X ou autre raison. 34%, ce sont des cas qui sont inexploitables, soit mal répertoriés, soit... les personnes n'ont pas donné assez d'informations. Voilà, effectivement. Et 3,5% sont des phénomènes non identifiés. Donc on n'arrive pas à les expliquer avec nos connaissances actuelles. Il y a une carte aussi qui a été déployée. C'est le nombre de cas par département et territoire d'outre-mer. Donc ici, on part vraiment en France. Alors c'est assez étonnant de voir qu'il y a quelques régions, alors dont le Nord... Et la région un peu de Marseille, où il y a quand même beaucoup
d'alcooliques.
Alors, j'allais dire, est-ce qu'ils font le lien entre quel jour et à quelle heure les événements, les gens, pardon, appellent pour dire tiens, j'ai vu un ovni ou un truc un peu bizarre?
Ça tombe comme par hasard le jour où il y a le plus de sorties en boîte ou des choses comme ça, c'est ça?
Pleine lune, des trucs du style.
À 6h du matin, au premier de l'an. Voilà.
Les pots de fin d'année, de fin, c'est ça, comme par hasard. On connaît le truc.
Alors, ça, apparemment, le CNES a commencé à répertorier ça dès 1964, où ils avaient à peine 1 à 4 cas qu'ils ont traités. En 1979, ils ont commencé à traiter plus d'une centaine de cas par an. Et aujourd'hui, on en est quand même un peu plus. À savoir qu'entre 1979 et 2009, c'était une période assez faible. Mais après 2004, on est vraiment arrivé à des statistiques vraiment importantes. Alors, est-ce que c'est dû aux séries, peut-être, qui ont ouvert notre esprit à ces sciences?
Le fait que tous les gens ont maintenant un appareil photo dans la poche, via le téléphone, ils ont
C'est
peut-être
vrai.
plus vite fait de déclencher.
Le flash, par inadvertance.
Non, faut mieux pas utiliser le flash quand tu peux prendre un appareil d'un. Surtout que ça, même si ça se passe la nuit, il vaut mieux pas.
Alors, on était en France, les Belges s'intéressent également à ces mystères et ces secrets des ovnis. Et on a pu voir ça sur la RTBF.
Absolument. C'est un podcast belge qui était diffusé cet été. J'ai écouté ça, c'était passionnant. Il est toujours disponible sur le site de la RTBF. Ça s'appelle Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Il y a 9 épisodes et ça reprend l'histoire depuis, bon, c'est à peu près 1947 qu'on a commencé à avoir des soucoupes volantes détectées, on va dire. Et ça reprend chronologiquement jusqu'à notre époque. Pourquoi les Belges s'y sont intéressés? Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, surtout tu disais que le Nord, il y avait beaucoup de. C'était une région où il y avait beaucoup d'apparitions, enfin de témoignages. Mais en Belgique, à une époque, dans les années 2000 ou 90, je ne sais plus, mais il y a eu, dans certaines régions, mais c'était l'envahissement, quoi. Il y avait des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de témoignages. On sait toujours pas ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est assez mystérieux. Et donc il y a pas mal de témoignages et de nouveaux documents, hein, puisqu'il faut savoir que la NASA ou l'armée américaine ont libéré des documents, on va dire classés secrets. Et on a enfin des témoignages de pilotes de l'armée qui avaient été classifiés, qui avaient été enfin étouffés plutôt. Des pilotes, même des gens sérieux, des gens expérimentés, qui avaient vu leur avion. On entend les témoignages dans le podcast. Enfin, il y a des témoignages de pilotes qui ont vu des choses, des appareils qui les suivaient, qui accéléraient, qui faisaient des accélérations impossibles avec la technologie humaine. Et on a même des témoignages de pilotes de ligne français, mais à qui on a demandé. Enfin, eux, ils ont préféré ne pas témoigner à grand public, parce que on les aurait pris pour des fous, alors que les mecs, c'était des officiers, hein, c'était déjà des colonels, voire plus. Et ils ont préféré ne pas témoigner parce que sinon, on leur disait, enfin, leur carrière était finie. Donc, et ils commencent à parler seulement maintenant.
Dans ce cadre-là, il y a une série qui est passée sur Warner Bros. Qui s'appelle Project Blue Book et finalement qui suit assez ce que tu viens de dire, hein, Dominique. L'appareil, hein, des scientifiques doivent expliquer des choses. Et ils interrogent assez souvent des militaires, des pilotes d'avions et qui, pareil, évitent de trop parler, de dire trop de choses parce que, oui, de peur d'être discrédité après auprès de leur hiérarchie.
Et maintenant, on peut retrouver donc des extraits, on peut entendre les audios des témoignages de l'époque des soldats, et ces témoignages maintenant sont publics. Et c'est très impressionnant.
Voilà, alors il faudrait mettre une hypothèse à. Voilà, c'est non identifié, mais ça vient d'où? C'est quoi? Des extraterrestres? C'est la solution la plus plausible lorsqu'on n'arrive pas à expliquer, hein.
Enfin, forcément, ouais, la première explication qui vient surtout des militaires, c'est un pays ennemi, enfin ennemi, un pays étranger qui a développé une technologie et puis qui teste. D'ailleurs, ça peut être même dans ton propre pays. Si c'est quelque chose un prototype très secret, même tout le monde dans l'armée n'est pas forcément au courant.
Avant, les gens se tournaient vers la religion aussi pour expliquer des phénomènes inexpliqués.
C'est ça, même la religion est inexpliquée. Alors, en Belgique, ils ont quand même recensé, à savoir que lors du premier confinement, ils ont reçu une explosion des notifications de phénomènes étranges, alors généralement liés à des ovnis. Ils ont remarqué que la plupart des ovnis étaient en fait des satellites, à savoir soit la station spatiale internationale, qui était considéré comme un astre étrange qui bougeait dans le ciel, ou la flotte des satellites. Ça vous dit quelque chose, ça?
La flotte des satellites, c'est-à-dire.
C'est Elon Musk, ça, non?
Effectivement. Donc les gens commencent à voir cette flopée de petites étoiles qui bougent, suivies l'une après l'autre. Ça a fait exploser un peu le nombre d'appels. Alors à savoir que J'en profite, on parle d'Elon Musk. Il y a tellement d'actualités qui sont liées à Elon Musk aujourd'hui. Il a battu le record de la réutilisation d'un booster récemment. Et il y a un autre record qui vient d'être battu, c'est qu'il vient de placer en une seule fois 143 satellites avec le Falcon 9, le Falcon 9. Ils ont décollé de Cap Canaveral en emportant 143 satellites, donc 133 destinés à un usage commercial. Tout le reste sont pour le gouvernement. Ça n'a jamais été réalisé auparavant par aucune compagnie, que ce soit la NASA, l'ESA ou autre. Et mine de rien, ça va encore faire de la pollution visuelle dans notre ciel, ça. Hein.
Mais si, à un moment donné, on verra plus de... Il fera nuit tout le temps, il y aura tellement de satellites...
C'est pour le bien de tous qu'il fait ça aussi. Donc,
Mais bien sûr.
On peut y croire.
c'est des satellites commerciaux, donc...
Oui, en même temps, tu dis qu'il a battu beaucoup de records, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais c'est aussi maintenant devenu l'homme le plus riche, Elon Musk. Il a battu Jeff Bezos en dépassant les 180 milliards de dollars début 2021.
Mais c'est pareil, il va les réinvestir sur Mars, donc c'est pas grave, on peut lui donner de l'argent à ce pauvre homme.
Écoute. Ben voilà, ça servira pour tout le monde après, c'est ce qu'il faut dire. C'est un mécène.
C'est ça, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en à peine, alors je vais dire 5 ans, SpaceX ne date pas d'aujourd'hui, hein. Mais je pense que depuis 5 ans, il a commencé à dépasser la NASA à tel point que toute la logistique des transports spatiaux se passe directement et sont négociés directement avec SpaceX. Et ça, c'est quand même incroyable d'avoir comme ça renversé le marché. On parlait de Jeff Bezos, lui aussi, hein, en 10 ans, lui a réussi à faire une bascule, à faire oublier tout ce qui était eBay et autres. C'est assez incroyable.
Et ça, c'est grâce à toutes les Tesla que tu as achetées, François, du coup.
À propos de phénomènes mystérieux, si on passe un peu de musique.
Ah, effectivement, on va vraiment partir dans le mystère musical cette fois-ci.
Des objets sonores non identifiés.
Alors, c'est même plus qu'un objet sonore, c'est carrément une belle musique. Et d'ailleurs, hein, si vous la réécoutez plusieurs fois, elle peut vous rentrer en tête. Est-ce que ça ne serait pas la meilleure chanson du fait qu'elle est tellement mystérieuse? Et elle porte le nom de la « The most mysterious song on the Internet ». Donc la chanson la plus mystérieuse sur Internet. Or, ça a été apparemment composé en 1980 d'un auteur dont on n'a aucune source. Hein. Même le nom de la chanson n'est pas vraiment identifié.
Si je dis pas de bêtises, c'est un homme, un Allemand je crois, qui s'appelle Darius. S, on ne connaît pas son nom complet, qui a enregistré la radio, qui a écouté la radio sur une radio publique allemande, donc je pense qu'il est allemand, et il a enregistré sur une cassette, et il a fait une cassette à un moment, sur une cassette qui s'appelle Numéro 4. Il y avait d'autres chansons dessus, hein, il y avait du Cure, etc. Et cette chanson mystérieuse, il ne savait pas qui c'était, donc il s'est renseigné, il a essayé de trouver, mais il n'a jamais trouvé. Donc il a fait une playlist, il a mis, après avoir cherché sur Internet, il a posté la chanson sur Internet pour en demandant de l'aide, pour qu'on l'aide à reconnaître la chanson. Il y a plein de gens qui ont cherché, et jusqu'ici, personne n'a trouvé.
Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a, d'ailleurs il y a un fichier Excel que vous pouvez retrouver avec plusieurs pistes, puisque des gens ont commencé à partir dans cette quête, hein, c'est un peu comme les objets qu'on doit retrouver en France.
Les chasses au trésor, oui.
Voilà, c'est ça. Et donc ils ont commencé à contacter toutes les stations de radio en donnant leur propre source. Et à l'heure d'aujourd'hui, rien n'a été identifié, même pas le titre de la chanson. On va s'écouter ça ?
Allez.
We'll be right back.
La plus mystérieuse qu'on a pu trouver sur internet. Alors si par hasard, hein, vous, auditeurs, vous reconnaissez ce morceau et vous dites, bah enfin, c'est Gigi Anderson ou je ne sais pas qui, et, contactez-nous directement.
Prends pas des rêves pour des réalités quand même.
Mais ça ouais. Fait du bien d'entendre des chansons qui durent plus qu'une seconde 36, quoi.
Elle était très bien cette dernière émission. D'ailleurs, hein, si vous voulez réécouter les podcasts de l'émission, allez sur le site de Radio Campus dans la rubrique podcast, tranche 18h-19h le dimanche, ou sur notre site anotherpodcast.fr. On va continuer avec quelques petites actualités, notamment dans le jeu vidéo. Alors on a deux petits points. Alors le premier, juste pour faire plaisir à Dominique et à Reynald, Cyberpunk 2077, ça y est, c'est le meilleur lancement digital.
C'est quoi, depuis le début du digital ou quoi ?
Il est débugué, c'est bon ?
Bah non, c'est que, comme on le dit souvent, toute pub, qu'elle soit mauvaise ou bonne, reste une pub. Et je pense que ça a bien fonctionné.
Ils en ont vendu plus de 10 millions, mais combien est-ce qu'ils en ont remboursé ? C'est ça aussi.
Ah oui,
est-ce qu'ils ont compté en négatif les remboursements ?
Ouais, mais non, si on recommence à regarder après les chiffres. Non,
10 millions vendus, mais combien joués ? C'est ça le truc.
10 millions vendus en décembre 2020, en un mois, avant même qu'ils soient patchés.
Oui, bah c'est comme les entrées des films qui font du succès. Quoi. Je me rappelle qu'à l'époque, le Grand Bleu, par exemple, il y a 10 millions de gens qui l'ont vu. Non, non, parce que tous les gens que je connaissais qui avaient vu le Grand Bleu, ils l'ont vu au moins 10 fois. Donc... entre le nombre d'entrées et le nombre de spectateurs, c'est pas la même chose. Il y a peut-être des gens qui l'ont acheté plusieurs fois, peut-être même pour le revendre à Cyberpunk. j'ai encore reçu des mails aujourd'hui pour l'acheter à 25€.
Mais moi, je sais que le jour où il sera gratuit, même toi, Dominique, tu ne le téléchargeras pas.
Non, ça va aller.
Même si on te dit c'est bon, il est débugué, je pense
non,
que.
Non, ça va.
Reynald ?
Ce jeu est un bug par lui-même.
Bah, après, effectivement, le jeu était extrêmement bien vendu en version digitale. T'as quand même, je crois, c'est 80% des ventes qui ont été faites sur PC. Et la version PC, à part les bugs, niveau graphisme, tout ça, si t'as un bon PC, ça tourne bien. Donc, en ce moment, en plus, les jeux qui se font sur le côté de cette thématique, bah, y en a pas vraiment beaucoup.
En fait, y a pas beaucoup de jeux tout court non plus.
Voilà, donc, à part si tu connais un peu les jeux indés ou les jeux qui sont vraiment intéressants, autres que les AAA, oui, tu peux trouver ton bonheur. Mais sinon, si tu suis que la mode des AAA, Cyberpunk, tu l'attendais, et même s'il est bugué, tu vas y jouer. Donc ça ne m'étonne pas.
Continuons dans le jeu vidéo. Vous savez qu'en ce moment, la mode, c'est quand même de faire des nouveaux concepts. Et c'est pour ça que Blizzard s'est associé avec Vicarious Vision. Alors ici, on est plus que dans une association, c'est carrément... ils ont racheté la société et l'ont directement intégré à leur entité Blizzard. C'est une société qui avait déjà été rachetée en 2005 par Activision. Alors, ils ont fait notamment, ils ont commencé par quelques jeux tels que Symnergist et Dark Angel sur PC, pour ensuite faire de nombreux jeux pour Game Boy Color et Game Boy Advance. Alors, récemment, on a pu les voir notamment sur des jeux tels que Tony Hawk, Pro Skater sur Nintendo DS.
Ah, ça vous fait pas envie. N'oublie pas le jeu Barbie Magic Jenny Adventure, s'il te plaît.
Je pense que ils ont fait que des bons jeux, mais non, peut-être pas. Ah, alors.
Oui, non, c'est ça. Bob l'éponge, mon Dieu.
Ils sont quand même spécialisés pour reprendre les jeux et les mettre sur d'autres plateformes. Et récemment, en 2020, Tony Hawk Pro Skater 1+2, qui reste un bon jeu à mettre dans sa bibliothèque si vous ne l'avez pas payé trop cher. Alors,
tu veux dire sous ta bibliothèque
Mais non, c'est un des rares jeux qui n'a pas été installé de mon ordinateur. Ici, Blizzard vous propose un tout nouveau concept hors du commun. Alors attention, hein, ici on est sur des fuites, hein, puisque rien n'a été annoncé. On attend bien sûr cette annonce lors de la BlizzCon de 2021. Donc ici c'est vraiment de l'avant-première, du tout chaud. C'est même pas encore enfourné dans le four. C'est un remake de Diablo 2.
Ah, du 2. Donc on n'est même pas sur Diablo 4. On est sur un remake de l'ancien.
Effectivement. Alors, Diablo 4... c'est toujours en développement. Alors, je suppose qu'avec la période actuelle, tous les développements de jeux vidéo prennent un peu de retard. Même si on pourrait penser que l'univers du jeu vidéo ne devrait pas être tant que ça affecté. Mais ce n'est pas le cas.
Pour l'instant, alors, puisqu'ils sont spécialisés dans les adaptations sur d'autres plateformes, c'est vraiment pour le sortir encore sur PC ou pour sortir sur console, sur Wii et compagnie?
Je pense
peut-être
que tu as mis le point dessus. Je pense qu'il y aura forcément une petite adaptation, peut-être Nintendo Switch, pourquoi pas Android. Est-ce que vous serez prêt à vous éclater les yeux sur un Android pour jouer à Diablo 2?
Sur une tablette, mais des gens y joueront, c'est sûr. Par exemple, tu lances la partie sur ton PC, et puis quand tu es en déplacement, t'as ton smartphone sur Android et tu continues ta partie. Je ne suis pas surpris que des gens puissent jouer sur leur smartphone.
Et puis même avec les dernières générations de consoles, maintenant que tu peux l'avoir en dématérialisé, tu peux très bien le prendre et faire du cross-platform dessus. Donc effectivement, t'as les trentenaires, les quarantenaires qui vont voir, tiens, on peut rejouer à Diablo 2, ça fait très longtemps que je l'ai plus, hop, on va le relancer.
Mais un remake de Diablo 2, graphiquement, je sais pas, j'arrive pas à voir comment. Parce qu'il y a déjà eu des boosts graphiques, des versions HD, on va dire, de Diablo 2, mais je vois vraiment pas l'intérêt, quoi.
Après, même sur la Switch, hein, c'est faisable, hein, vu que ils ont déjà sorti des jeux de 2015 comme Skyrim et compagnie, donc pourquoi pas.
La question était pourquoi ne pas l'intégrer directement à Diablo 4? Ça aurait pu être une possibilité.
Les fuites qu'on avait de Diablo 4, c'était Diablo 4 revenait aux racines, pas de Diablo 1, mais de Diablo 2, au niveau des classes de personnages, etc. Donc je m'attendais à ce que ça soit ça, le fameux remake de Diablo 4.
Et c'est un peu une attente que moi j'avais. Alors là, on va partir chez Bethesda, mais par exemple, Elder Scrolls nous a ressorti sur Elder Scrolls Online des maps directement sorties de Morrowind ou d'Oblivion. Mais malheureusement, on avait perdu complètement ce gameplay, ce côté aventure et RPG, hein, puisque un MMO, ça reste mine de rien, je clique sur le bouton et je vais me balader pour aller chercher la quête. Et ça, ils n'ont pas réussi du tout à le refaire. Alors, c'est peut-être la même raison pour laquelle il ne sera pas intégré à Diablo 4, mais plutôt sera présent sur un style remake où on va juste refaire les graphismes. Est-ce que vous serez prêt? Est-ce que, alors voilà, Diablo 4 ou Diablo 2 Remake?
J'ai jamais été un grand fan, moi, de tout ce type de jeu, parce qu'on peut y passer beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, moi, je jouerai à aucun des deux. Mais je préfère tester un nouveau jeu plutôt que rejouer à un ancien.
Je testerai les versions démo. Ils font toujours la version démo, mais ça ira pas plus loin, à mon avis.
Je t'avouerai que j'ai poncé Diablo 1, j'ai reponcé Diablo 2, en large et en travers. J'ai pas du tout joué au 3, alors le 4 m'intéresse pas. Et pourquoi pas retenter un 2, mais dans ces cas-là, je ferai multijoueur. Je le ferai avec quelqu'un, tu vois.
Bon, c'était ça qui était sympa avec Diablo, hein. C'était surtout de jouer à plusieurs. Même si tu t'amusais à lancer des parties comme s'il y en avait 8 joueurs, mine de rien, c'était mieux d'être à 2 ou 3.
Pour remonter plus vite tes points d'XP, oui.
C'est ça. Alors, on va continuer un peu dans la musique. On était... Alors, c'est pas du back-to-back aujourd'hui. Hein. On va, avec vous, faire une enquête de profondeur. Nous allons essayer de découvrir quelles sont ces musiques qui sont disponibles sur Internet, mais qui n'ont jamais été identifiées. Alors, on a écouté tout à l'heure « The Most Mysterious Song on the Internet ». Là, on va partir, et Dom, ça va te faire plaisir, puisqu'on va partir sur un format cassette. Et vous allez l'entendre, hein, on entend un peu le petit bruit de la cassette qui n'est pas vierge, qui a dû sûrement être enregistrée peut-être une paire de fois, qui sait.
Alors, un petit peu comme dans le cas de tout à l'heure, pour résumer, cette fois-ci, on est en 2007, et un Américain fait le, il aime bien, il cherche des cassettes et il fait le tour des magasins de dépôt-vente, ce genre de choses, les débarras. Et il y a toujours des gens qui laissent. Des fois, on peut trouver des cassettes audio. Et il cherchait des cassettes vierges, apparemment. Il en achète un lot et il y a une des cassettes qui n'était pas vierge. Et donc, avant de la supprimer, avant de la copier, il décide d'enregistrer la cassette, de la recopier sur son PC, pratiquement, sur son ordinateur, et pour écouter ce que c'est. Même si c'est un amateur de musique, il n'arrive pas à reconnaître les musiques qu'il y a dessus. C'est, apparemment, ça serait, il y a 7 chansons sur la cassette. C'est des musiques un peu disco qui dateraient de la fin des années 70, d'après lui. Mais il a cherché, comme notre ami de tout à l'heure, il a cherché sur Internet, il a fait essayer avec Shazam toutes les applications, il a posé des questions sur Facebook, sur les forums. Personne n'était capable de reconnaître ses chansons.
Alors il commence en 2017, donc un appel à l'aide sur Facebook. Il reçoit quelques pistes, mais rien de concret. Du coup, il invente un peu un nom pour cette cassette et... Quel meilleur nom pour quelque chose de mystérieux que John Doe. Donc on va s'écouter ensemble la John Doe Disco qui était découverte à Seattle.
Alors laquelle on va écouter? Il a quand même donné des noms, hein, mais il y a 7 chansons. La Disco Palace, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est la 5e piste, si j'ai pas de bêtises.
Time to
C'était la cinquième piste de la chanson mystérieuse découverte sur la cassette.
Avec du Moog.
Voilà.
Après, si on veut, je veux dire, inciter les auditeurs à essayer de savoir qui étaient les artistes, je sais pas, il y a peut-être un prix à leur donner, non, s'ils trouvent quelque chose, non, on pourrait pas.
Bah, écoutez, si. Bah, après, comment est-ce qu'on vérifie nous, à Radio Campus? Je veux bien faire un jeu concours, mais si j'ai pas la réponse, je peux prendre toute réponse. Mais effectivement, je pense qu'ils seront récompensés par Tom, hein, en direct. Hein. Nous, on n'hésitera pas à lui envoyer un message.
Le fameux Tom Délanchon, lui, il a fait une vidéo, donc il a enregistré, il a capturé, il a ripé la cassette, comme on dit techniquement. Il en a fait une vidéo YouTube qu'il a postée, et donc ça a aidé à compléter. Et donc, il y a déjà quelques réponses, il y a des personnes qui ont identifié certains des morceaux, il faut dire. Donc ça avance petit à petit. Et même récemment, le fameux John Doe, il a un nom maintenant. Parce que, non, on ne va pas le dire, hein, faut que si les gens veulent tout savoir, il suffit d'aller sur YouTube, par exemple, et de chercher John Doe Disco, pardon, et vous aurez la vidéo qui dure 30 minutes, où il y a les 7 morceaux, et c'est assez sympa.
Voilà, on se réécoutera un morceau rapidement tout à l'heure pour éventuellement vous donner d'autres pistes.
C'est assez amusant que tu parlais de moi et tu as choisi cette musique parce que juste avant l'émission, j'ai des cassettes et j'ai ressorti un appareil cassette et j'ai essayé, j'étais justement en train de ripper des cassettes moi aussi, des vieilles cassettes pour savoir ce qu'il y avait dessus, avec mon enregistreur et un câble et d'écouter le son dans Audacity pour voir si j'arrivais à le retravailler. Donc j'étais justement en train de faire ça tout à l'heure et quand j'ai vu que tu avais choisi ce sujet. C'est bizarre les coïncidences quand même. Mais pour l'instant, j'ai reconnu tous les morceaux. Ça va.
Il y avait comme un feeling. Et il y a encore des productions de cassettes à l'heure d'aujourd'hui?
J'ai dit, on pose pas de questions quand on n'a pas la réponse.
Mais si, je te lis, je connais des artistes.
Alors, que t'as posé.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a quand même des disques vinyles, ça c'est sûr.
Ouais, ça, de plus en plus, ça marche.
De plus en plus,
c'est revenu à la mode.
On vend même plus de vinyles que de CD.
On en avait discuté. Ben oui, mais le CD, entre nous, le CD est mort. Hein. Il faut l'enterrer. Ne cherchez même plus à le revendre. Je vois sur le Bon Coin, des fois, des gens qui revendent des DVD et des CD. Entre nous, mais est-ce que vous utilisez encore votre platine de DVD?
Mais je suis sûr que, bien sûr, il y a des magasins qui te vendent des DVD, mais il y en a plein, surtout pendant le confinement. Qu'est-ce que les gens avaient d'autres affaires que regarder la télé s'ils n'avaient pas un réseau Internet de haute qualité?
Voilà, oui, moi, je vous dis, ça finira comme les vidéoclubs. Vos CD, maintenant, de toute façon, ça sera Internet, donc ça sera de la vidéo on demand. Hein, vous allez en manger du Netflix, du Amazon Prime, du OCS, du Disney Channel.
Comme le fameux Tom Delanchon, c'est toujours sympa. Je connais des gens qui vont sur les marchés, les brocantes, les braderies, et qui cherchent les cassettes, mais pas les cassettes du commerce, les cassettes enregistrées, et d'essayer de trouver ce que les gens ont enregistré sur leur télé.
Quelquefois, tu peux avoir des petites surprises.
Tu peux avoir des petites surprises. Et les cassettes audio, c'est pareil. Il y a des cassettes originales, bien sûr, mais tu as aussi des cassettes. Des fois, il y a quelque chose d'écrit. Des fois, ça a été effacé. J'ai des cassettes. Il y a des trucs écrits dessus. J'arrive pas à lire parce que ça a été effacé par le temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? Et donc, c'est peut-être des trucs que tu as enregistrés. Comme l'album dont on parlait la dernière fois. Voilà, l'auteur qui fait de la musique et qui s'amusait, quand il était ado, à prendre son métophone et à aller enregistrer des bruits dans la nature.
Après, il faut quand même que la cassette, que le support tienne le coup, parce que bon, avec le temps, forcément.
Ouais, malheureusement, il y a une petite détérioration qui est présente sur le support. Mais bon, c'est pareil pour les disques durs. Hein, si tu avais gardé ton disque. Enfin, moi, j'ai ressorti un pack de 4 disques durs sur lesquels j'avais sauvegardé mes données. Il y en a 2 qui ne sont jamais remontés, quoi. Donc,
ah oui.
Voilà, tu
le
dis, je vais garder
quand
ça.
Quand un disque dur est mort, tout le contenu est mort pratiquement. Il y a des techniques pour les récupérer, mais ça coûte une fortune, donc on ne va même pas y penser. Tandis qu'une cassette, même si elle est cassée, ou même si la bande est coupée, tu peux. Au moins, tu as une partie qui est récupérable.
Après, ça reste un côté, le bobine magnétique ou une bobine de cassette audio. C'est un peu comme pour les négatifs. Tu as besoin de pratiquement rien pour les écouter ou pour les manipuler. Comparé à ce qu'on disait sur les CD et les DVD qui ont besoin d'une technologie qui est maintenant passée, tout le monde va revenir peut-être à un moment donné à une cassette audio parce qu'il y a une facilité de réécouter et de changement de support.
On peut encore trouver dans le commerce des enregistreurs, des magnétophones, etc. Mais alors, les trucs de grande marque, de grande qualité qu'on peut trouver dans les studios, même dans les studios de Radio Campus, ça coûte super cher, les platines. Ça ne vaut pas forcément le coup si c'est juste pour riper des vieilles cassettes. On peut trouver aussi sur eBay, Amazon, etc. des petits magnétophones USB que tu peux brancher. Mais tu peux pas ajuster les réglages, la qualité n'est pas forcément top. Moi j'ai ressorti un vieil appareil, donc je sais que la qualité va pas être super top, mais c'est pas très grave, surtout que les cassettes sont vieilles.
Du coup, tu branches ton...
des bons appareils.
Du coup, tu branches ton appareil en auxiliaire et tu enregistres directement, c'est ça ?
Je branche un câble, donc moi j'utilise mon enregistreur, celui que j'utilise pour faire des interviews, donc c'est un petit appareil. Je peux enregistrer directement, donc j'ai branché un câble 3,5 mm, c'est ça, sur la sortie casque de l'appareil, et sur l'entrée micro de mon appareil, j'enregistre directement en mettant le volume au maximum pour avoir un maximum de volume, et ensuite je récupère ça sur l'ordinateur sous forme de fichier WAV pour être technique et dans Audacity, et je peux écouter, recoller les morceaux.
Vous avez des vieilles cassettes qui traînent, vous pouvez les envoyer à Radio Campus.
Je sens que j'ai écouté des morceaux, il y a des ralentissements, il y a des trucs comme ça. Donc soit la bande est abîmée, soit c'est l'appareil qui est... Bon, j'avoue qu'il est mort, il a passé un peu de temps au grenier, il a dû morfler.
Soit c'est un artiste qui a utilisé un peu trop de drogue lors du mixage.
Allez, après, on va... Ouais, faut savoir que même les CD...
Il y avait du Fleetwood Mac sur mes cassettes.
Donc, il y avait encore de la poudre dessus.
Il y avait encore de la poudre.
Après, même les CD et DVD pressés, c'est pareil, ils n'ont pas une durée de vie infinie. Donc, faut pas croire que quand vous avez acheté un DVD dans le commerce, vous allez pouvoir le garder toute votre vie. Ce n'est pas vrai. Tant mieux pour certains, vous me direz, certes.
Je vais créer un groupe à balles CD parce que.
Non, mais dis-toi que ça va devenir un objet de collection, comme certains aillent chercher les vieux jeux des années 80, les Super Nintendo et compagnie, ou les cassettes VHS de films.
Au-delà de la collection perso, après, pour les entreprises, c'est aussi le stockage sur de longues durées, de documents normalement qui ont des durées de vie juridiques infinies, c'est aussi une vraie problématique.
À moins de les graver sur des plaques en cristal, comme ça se fait sur certains trucs, au laser, là, ça serait immortel, mais ça coûte un peu cher.
C'était une problématique. Maintenant, tu as tes serveurs avec une redondance de données, c'est plus un problème à l'heure actuelle.
Mais non, si tu fais exploser une bombe électromagnétique près d'un serveur Amazon, tu vas voir que...
Ouais, mais...
Non, mais... C'est pas sûr. Tandis qu'une plaque en cristal gravée au laser, là, tu peux balancer une bombe atomique dessus et ça va pas bouger.
Il n'y aura plus personne pour le lire, mais...
Aussi, justement, le but, c'est que ces informations-là, tu les gardes dans des milliers d'années, quand il y a des archéologues qui vont creuser. Bah, s'ils retrouvent un CD, une cassette audio, etc., ils vont pas faire grand-chose, déjà, le faire en mauvais état. Tandis que les plaques en cristal, je sais pas, c'est pas du cristal, d'ailleurs, je sais plus que c'est gravé, elles seront toujours lisibles. Après, il y a le problème de dans quelle langue tu le mets, dans quel format de données tu le mets. Ça, c'est encore d'autres problèmes. On a de quoi faire 3-4 émissions avec ça. Alors qu'on a de la bonne musique à écouter.
C'est ça. On va enchaîner un peu sur le côté ludique cette fois-ci. Un magazine qu'on a découvert et j'ai ouvert des Philimag. Et c'est extrêmement intéressant. Ici, on va partir dans le jeu de société qu'on affectionne tout particulièrement. D'où ça vient ce Philimag ?
Bah, Philly, ça commence comme Philibert, donc c'est un magazine qui est gratuit, en format digital, qu'on peut lire en ligne, qu'on peut retrouver sur le site de Philibert, la fameuse boutique de jeux en ligne, la plus connue en France pratiquement, surtout depuis qu'elle a été rachetée par Asmodée il y a quelques mois, donc encore plus de succès assuré. Et donc ils en sont au numéro 7, si je dis pas de bêtises, le premier numéro est sorti en juin 2020. Donc il n'y a pas que de la publicité pour les produits Philibert, ni Asmodée, quoique, mais il y a aussi des articles, des interviews, des classements, les meilleures ventes, c'est intéressant aussi, les meilleures ventes mois par mois des jeux. Il y a plein d'informations assez sympas, des tests de jeux, des reportages. Donc c'est sur le site de philibert.com, ça s'appelle donc le Philimag.
Et ils en sont même au numéro 8 là en fait, vu que il y a celui de janvier qui est sorti. Et d'ailleurs, quand vous commandez, du coup, que vous recevez vos jeux chez vous, très souvent, du coup, il y a un magazine avec dans votre boîte.
Maintenant que tu m'y fais penser, ça fait un peu comme catalogue des jouets de Noël où je vais avoir plein de jeux à l'intérieur. C'est quand même plaisant, en plus de voir la boîte, puisque généralement, on va voir la boîte, mais on ne va pas forcément avoir le contenu ni de détails sur le gameplay et la mécanique du jeu. Ici, c'est quand même assez pratique. Si vous voulez acquérir un jeu de société récent, hein, puisque ici, ils ne vont pas faire dans les oldies.
Le truc, c'est que, oui, comme il y a beaucoup de gens qui commandent leurs jeux, bah, sur Philibert, c'est une vraie boutique à pignon sur rue, mais c'est une boutique en ligne qui marche énormément. Commander un jeu, quand tu vas dans une boutique, tu peux parler au vendeur directement. Tenir la boîte dans tes mains, même si tu peux pas forcément l'ouvrir parce qu'elle est sous plastique, tu peux parler avec le vendeur, tu peux regarder, tu peux la retourner, voir si ça te plaît vraiment. Avec en ligne, même avec les meilleures photos, c'est pas forcément évident. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des articles ou même d'aller voir des vidéos en ligne de gens qui ouvrent la boîte et qui testent le jeu. Et là, tu as des interviews d'auteurs, d'illustrateurs, c'est vraiment sympa.
Allez, je vous propose un petit. Allez, je profite puisqu'il y a un petit quiz à l'intérieur. Un quiz ludique. Je vais vous en sortir deux ou trois. Et si vous voulez avoir l'intégralité du quiz, bien sûr, allez sur le site frkalameo.com et cherchez tout simplement Philly.
Philly, Mike. Il y a même des jeux à l'intérieur. Tu peux imprimer et découper si tu veux.
Alors,
si t'as pas le vrai magazine.
Ouais, Philippe PHI, hein. Attention. Alors, parmi ces jeux, lequel n'a pas encore de version pour enfants? Small World, Concept, Corridor ou L'Âge de Pierre?
Le Small World.
Small World.
Parmi ces jeux, lequel n'a pas reçu la récompense de l'As d'Or? Abalon, Oriflamme, Azul ou Imagine?
Imagine.
Bon, écoute, je pense qu'il y en a un qui est au taquet, là. Ouf.
Mais tu as la réponse sous les yeux, c'est pas possible.
Non, parce que... était direct à la page réponse.
Non, parce qu'en fait, Oriflamme, c'est celui de l'année dernière.
Azul, c'était celui d'avant.
Azul, c'était celui d'avant. Et je me souviens que quand j'avais acheté ma boîte d'Abalon il y a très longtemps, et d'ailleurs, je la vois, elle est au-dessus de mon étagère actuellement.
Un des premiers qui a remporté le trophée, je pense.
Il y a l'ancienne insigne As d'Or dessus. Donc il restait que celui que tu as dit que je connaissais pas.
Tu l'avais payé en francs, quoi, du coup.
Ouais.
Une petite chanson de disco qui n'a pas été identifiée, Dominique. Je te laisse choisir un numéro.
Elle a peut-être été identifiée, hein, pour les voir. Un petit, je sais pas, Do We Need Together. Ça m'a l'air bien rythmé. La piste numéro 3.
Alors, je promets pas que si la musique est insupportable, que je la réduise pas un peu au montage.
Hein. Ouais. Après, François, comme c'est une cassette, en fait, t'es obligé de faire avance rapide et d'aller jusqu'à la piste 3. Alors qu'avec un CD, tu peux faire le 3
directement. C'est ce que je fais. Hein. En fait, là, moi, je vais en studio et puis je...
Tu sais, les verbes rembobiner, tu n'as pas dû connaître, mais ça s'appelait rembobiner une cassette.
Voilà, avec un stylo, un crayon de bois.
Aussi, ouais. Ah.
Now that we're together, I'm never gonna be all by myself.
Toujours sur cette chanson, sur cette cassette de disco, intelligemment nommée la John Doe Disco, on enchaîne. Alors, j'ai énoncé ce thème de masterclass et on peut remercier ces pubs Facebook qui sont quand même bien pensées puisque directement on m'a proposé une leçon en vidéo de Kev Adams.
Ah oui,
alors... Le site s'appelle...
Attends, pas pousser Pierre-Yves.
Non, mais Pierre-Yves, enfin... Oh bah. On parlait la dernière fois d'un site qui permettait d'avoir des petites dédicaces vidéo de ses artistes préférés. Est-ce que vous avez été refaire un tour sur ce site ?
Non, pas du tout.
Pas l'occasion.
On en a reparlé à l'occasion de Noël ou du Nouvel An, hein, à propos de Chuck Norris. Parce qu'on s'est aperçu que Chuck Norris avait fait un message personnalisé pour la ville de Bastia, en Corse. Et c'est tout simplement la municipalité de Bastia qui a utilisé l'un des sites, justement, pour personnaliser un message, en demandant à Chuck Norris de faire un message en disant que Bastia, c'est une super ville, que les gens sont adorables et qu'il faut y aller. Et on a reproché au maire de la ville d'avoir dépensé de l'argent pour ça, alors que ça coûte même pas forcément cher, je sais pas, ça a coûté 200, 300 euros peut-être, c'est rien au niveau communication. La preuve, c'est que pendant une semaine, on a parlé de Bastia partout, sur tous les réseaux sociaux.
C'était une super idée. Hein.
Vous n'avez pas 200, 300 euros pour que Chuck Norris fasse une pub.
Ah, mais c'est trop tard, ça marche plus maintenant.
Heureusement en France. Ah, zut.
Mais non, nous on voulait Mr. T. Mais Mr.
Ah,
bah,
oui.
T n'est
il y avait,
toujours
il y avait
pas.
Le sosie de Mr. T.
Ah, mais tu voulais pas MacGyver plutôt ? Richard Dean Anderson ?
Ça, c'est pour perso. est-ce qu'on peut rappeler le nom du site que je cherche et je ne trouve plus ? Cameo.
Voilà, il y avait un site français aussi, non ?
Il y a le site français qui s'appelle BeVibe. Alors, la star la plus connue était Frankie Vincent. Donc, franchement, ça nous a démangé quand même de payer. Alors, je pense que c'était une cinquantaine d'euros pour avoir un petit
non,
message.
Avec la réputation qu'il a, c'est pas le genre de personnage avec à qui t'as envie d'être associé.
C'est vrai, mais bon, écoute. En plus, payer 50 euros. Enfin, revenons sur les masterclass. Mentorshow.com. Allez, on fait de la pub, puisqu'apparemment, ils payent cher pour apparaître dans les réseaux sociaux. Alors, la masterclass, il y en a plusieurs. On va commencer par Kev Adams. Le but de ces leçons, 12 leçons en vidéo pour un total de 1h48 de messages, alors non pas personnalisés, mais des messages formateurs, sachant qu'il y a des réductions.
Je veux dire, il te promet de retrouver l'être aimé peut-être ? Non, c'est ça ?
Pas encore.
J'ai perdu.
Non, attention, il t'enseigne comment croire en toi. Donc, le titre, hein. Enseigne comment croire en soi et réaliser ses rêves. Écoutez, est-ce que pour 97 euros, vous n'avez pas envie de réaliser vos rêves ? C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Alors, 12 leçons avec l'introduction, forcément, la loi de votre succès, courez dans votre ligne, projetez ce que vous avez envie d'être, passez à l'action, soyez vraiment productif, dépassez la peur des critiques. Alors, ouais, pour Kev Adams, effectivement, c'est peut-être quelque chose hein, qu'on peut noter, dépasser la peur des critiques. Ah, le processus créatif est devenu inarrêtable. C'est la leçon finale, hein, forcément. Qui est-ce qui va regarder ces vidéos entre nous?
Nope.
Les fans de Kev Adams?
Bah oui. Est-ce que quelqu'un qui a envie d'avoir confiance en soi va regarder Kev Adams? C'est la grande question. Il n'y a pas seulement la confiance en soi ici. Hein. Vous pouvez faire un peu de fitness avec Thibaut InShape.
Thibaut InShape, c'est à peu près normal qu'il se retrouve là-dedans parce que c'est un YouTuber fitness, musculation qui est assez connu, pratiquement le numéro 1 en France, si je dis pas de conneries, coup, là-dessus.
Il a et déjà un business comme ça, alors où il donne des cours en ligne, non?
En fait, il a monté sa chaîne YouTube comme un vrai business, et ce qui est normal, c'est un YouTuber, c'est son métier, c'est son revenu, et qu'il fasse du fitness à la demande là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est vraiment sa carrière.
Pour attirer un peu plus de public, sans doute pour se faire connaître différemment, auprès d'un autre public.
Alors, on a Karim Benzema qui vous enseigne le football. Je suis désolé. Alors, il vous apprend à devenir le maître du jeu, à devenir un meilleur passeur, un meilleur buteur, de développer votre intelligence de jeu. Ça peut être...
Lui, il ne va pas faire ça pour l'argent.
Mais si, bien sûr que si, Dominique.
Oh, je pense, oui. Il n'en a pas besoin, mais il le fait pour l'argent quand même.
Attends, ici on parle de séances qui coûtent 97 euros. Donc, une personne...
C'est le total, ça, non ?
Attention, puisqu'il y a des artistes qui, en période de confinement, notamment dans le domaine de la musique, proposent des masterclass où ils vont vraiment recevoir des gens, ils vont recevoir des questions. Là, ils ont tourné...
Ils ont enregistré, donc ça leur a pris du temps. Donc,
ah, mais Benzema a pris une heure de son temps et va toucher... Alors, je pense que la plateforme va prendre au moins la moitié. Hein. Mais s'il touche 50 euros par personne qui a cliqué pour avoir, écoute... regarde Chuck Norris qui se casse le cul à faire des vidéos personnalisées. Est-ce que c'est pas mieux de faire une heure et demie de vidéo et puis basta?
Après, ouais. Même si c'est des vidéos qu'on peut critiquer, parce que voilà, Kev Adams qui t'apprend à avoir confiance en soi, bref, j'ai connu des personnes qui pouvaient te manipuler un peu mieux. Le fait que c'est des vidéos qui sont normalement, ils doivent t'éduquer entre guillemets, donc tu dois les construire, tu dois avoir un but, tu construis pas une vidéo éducative comme ça, c'est pas juste parler. Donc tu dois quand même travailler un petit peu tes vidéos et y avoir une relation entre chaque vidéo pour avoir une progression.
Ok, allez, tu y as passé deux jours. Allez, vendu.
Non, mais c'est la méthode Koué, après. C'est du coup, tu entends ces messages et tu te sens plus confiant et ça marche, en fait.
Et je suis sûr que tu peux les visionner qu'une fois. Ah. Bon, là, je vais un peu loin. J'ai pas testé. C'est pas comme le Bispo. J'ai pas été jusqu'au point de me vendre pour le projet, mais...
Après, Karim Benzema, c'est un peu la gruge, en fait, parce que sur 15 leçons, il n'y a que les 9 premières où c'est Karim Benzema qui parle. Et après, à partir de la 10e, c'est Armand Garrido. Donc, c'est un peu de la triche. Hein. Mais bon.
Ce qui risque d'être le plus intéressant, c'est peut-être les recettes de cuisine. Alors, j'appelle ça les stars de Top Chef. Non pas... Enfin, si, il y a des stars de Top Chef. Il y a Hélène Darroze. Il y aura bientôt Jean-François Piège. Il y a aussi ceux qui apparaissent comme les plus grands cuisiniers de France, tels que Pierre Gagnaire, Bruno Auger. Enfin, il y a quand même plusieurs recettes de cuisine qui peuvent être intéressantes, mais encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas trouver un amateur qui fait la même chose sur Facebook?
Tu vas sur YouTube et t'en as des meilleures qui sont gratuites.
Voilà. Ou tout Twitch, puisque je suis tombé sur Twitch, sur des gens qui font de la cuisine. Donc Twitch, c'est vraiment, je pense qu'il y en a qui font de tout. Hein. Alors, à venir sur cette plateforme mentorshow.com, Tony Parker, je pense qu'on a hâte d'avoir des vidéos de Tony Parker. Gaël Monfils pour vous apprendre, qui vous enseigne le tennis, et Léa et Louis pour comment réussir sur les réseaux sociaux.
C'est bien réussi parce que je ne sais pas qui c'est.
C'est important. Et t'as pas dit Tony Parker, c'est pour le basket ou c'est pour autre chose?
Non, le basket.
Ah, le basket.
Ouais. Oui, parce que pour la chanson, pour le rap, il va repasser. Hein.
Ou comment réussir votre vie en étant petit, je sais pas.
On passe un petit rap de Tony Parker en fin d'émission, ça pourrait être sympa.
Je suis sûr que pendant la vente aux enchères sur les sportifs, vous avez acheté quelque chose de Tony Parker discrètement, si ça tombe.
Non.
J'ai vu un stylo Parker en magasin, mais non, je sais
pas. Moi, j'ai acheté un jeu Parker Brothers, je pense que c'est la même chose.
Alors, j'ai une question pour Dominique. D'où tu me sors du rap de Tony Parker? Est-ce qu'on a déjà écouté ça dans l'émission?
Non, justement, c'est l'occasion.
Alors, de son vrai nom, hein, William Anthony Parker, a fait du rap?
Eh oui.
Ah ouais.
Ouais, Dominique est même le fondateur du fan club de Tony Parker.
Du ban club.
Du ban club. La première règle du Ban Club, c'est qu'on ne parle pas de Tony Parker.
Avant le confinement, Dominique a fait tous les brocantes, a récupéré tous les cassettes et il est tombé sur ce magnifique.
Tout le monde s'était moqué de lui à l'époque, parce que même ses copains basketteurs, c'est, voilà, c'est comme. Enfin, attends, la dernière fois, on a passé du Pascal Olmeta, donc on peut bien ouais. passer du Tony Parker. Hein.
Ah, après, je veux dire, quand à ce niveau-là, que t'as de la thune, tu fais un peu ce que tu veux et je pense que même si j'en aime pas, tu t'en fous un peu.
J'essaie de choisir une bonne chanson, mais en fait, je pars sur une cause perdue, là.
Bah, ça dépend si tu regardes le public ou pas, quoi. C'est toujours pareil.
Peut-être pour ça que Dominique l'a proposé en fin d'émission.
On va s'écouter du Tony Parker avec Premier Love. Tu comprends? Il vit en Amérique, mais il a toujours un peu un côté français. Hein, quand, notamment, il faisait des matchs pour l'équipe de France. Alors, c'est Premier Love. Avec un feat de Rick Well, qui a percé dans la musique, notamment grâce à Tony Parker. On se retrouve pour notre part la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love. Bien avant le basket, mon premier titre, toujours ensemble. À l'époque, on était croque l'un l'autre. On était jeunes, on était fous, à qui la faute, on était rien sans l'autre. On était simple, on était deux, on pensait un. Un seul amour, un seul avenir, un seul chemin. Et je me rappelle quand je te serrais dans mes bras, tu me disais que t'aimais ça, t'étais au nirvana. Tu m'as rendu meilleur, j'avais un cœur de pierre, de cupidon t'étais.
Radio Campus Lille, 19h.